Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Gameblog.fr pour ce nouveau podcast, le 182e de l'histoire des podcasts de Gameblog, avec aujourd'hui une très belle thématique, l'histoire de la NES. Vous savez, la Nintendo Entertainment System, la première console Nintendo, enfin ça,
pas
on va en savoir, et pas tout à fait. Et vous avez commencé à l'entendre et peut-être le voir si vous êtes premium avec la vidéo. Florent Gorge est notre invité exceptionnel aujourd'hui, alors que pour cette dernière émission enregistrée dans les bâtiments de Gameblog, eh bien le décor s'effondre.
Je pense que c'est un signe, hein, je vais pas
un
dire.
Signe, exactement. Il faut qu'on parte. Je
vous amène un peu de Japon là, vous voyez.
Exactement. Alors Florent, dans cette atmosphère est complètement absolument incroyable, mais c'est live et c'est ça qui est beau aussi. Tu arrives aujourd'hui, c'est disponible depuis une semaine maintenant, depuis le 20 avril dernier,
ouais.
Arrive avec le volume 3 de l'histoire de Nintendo, et ce volume 3 est dédié donc à la NES, et c'est absolument passionnant. Ça couvre la période 1983 à 2003, donc 20 ans d'histoire pour cette machine absolument mythique.
Exactement, ouais. Donc c'est sorti, tu viens de le dire, depuis une semaine, et puis dispo sur le site d'Omake Books, avec une édition, une couverture un petit peu différente, même très différente, pour Pixel Love.
C'est celle-ci.
Donc ce livre édité par Omake Books et voilà, est dispo, et ça traite, comme tu as dit, de la Famicom, de la NES, de façon la plus exhaustive possible. Et d'un point de vue historique, on rentre dans énormément de détails sur l'histoire de cette console 8 bits mythique. Ouais.
Alors on va en parler pendant cette heure de podcast, puisqu'effectivement tu as œuvré quand même pendant un an et demi de travail pour récupérer de nombreuses anecdotes. Alors... la partie japonaise est bien évidemment très présente, puisque la console est sortie au Japon, sa patrie initiale, le 15 juillet 1983. Et il a fallu attendre bien longtemps, hein, plus de 4 ans en fait, puisqu'elle est sortie officiellement en septembre 87 en France. Et justement, c'est une partie qu'on connaît très peu finalement, des dessous, les tractations. Qu'est-ce qui ont fait que cette console est arrivée chez nous dans l'Hexagone? Comment elle a été commercialisée? Ça, on le retrouve dans l'histoire de Nintendo. On va en parler tout à l'heure en deuxième partie de ce podcast. Mais on va commencer tout de suite avec donc cette machine que l'on doit en fait à un homme, Masayuki Uemura, qui en fait travaille à la division recherche et développement 2, la R&D 2 de chez Nintendo.
Ouais.
Comment ça s'est passé à ce moment-là? Parce que c'est pas la toute première console de Nintendo en fait.
Non, exactement. Déjà dès 1977, on a eu des consoles de type Pong, avec différentes adaptations de cette licence qui appartenait à Magnavox. Et puis différentes itérations de consoles, là encore, où les logiciels étaient inclus à l'intérieur de la boîte. Et les cartouches n'étaient pas interchangeables. Donc Nintendo avait déjà commercialisé 5 ou 6 consoles de ce type-là. Il faut attendre 83 et un certain nombre de paramètres pour que Nintendo décide de passer la vitesse supérieure et de copier un petit peu ce que faisait déjà Atari depuis 77 aussi. Le travail a demandé 1 an et 9 mois pour réaliser
ce
la Famicom.
Très court par rapport maintenant à 2, 3, 4 ans de travail avec des investissements colossaux.
Oui, enfin, bon, les marchés n'étaient pas les mêmes, et puis il faut dire que la technologie, bien qu'elle soit pour l'époque très performante, les concepts restaient très, très basiques. On avait peut-être moins besoin de recherche et développement, puisque les concepts étaient simples, hein, de la console. Mais quoi qu'il en soit, c'est une console qui part d'un postulat assez amusant en fait, et d'un défi lancé par monsieur Yamauchi, le président de Nintendo charismatique de cette époque.
Le fameux Mother Brain, comme on l'apprenait dans la biographie de Gunpei Yokoi.
Oui, en tout cas la mémoire vivante et puissante de Nintendo, et c'était il s'est lancé un pari, voilà, de créer cette fameuse console, et c'était pas gagné d'avance, hein, quand ils ont lancé le début du concept. Ouais.
Alors justement, tu le disais, le marché a beaucoup évolué en quelques 30 années. Juste pour resituer un petit peu les choses, la NES et donc la Famicom, puisqu'au Japon, on le rappelle, elle ne s'appelle pas la NES, mais elle s'appelle la Famicom, la Family Computer.
Voilà, la Family Computer tout d'abord, et puis après quelques années, les Japonais se prenant d'affection vont contracter les deux mots pour devenir Famicom.
Ils aiment bien, c'est comme les Pocket Monsters qui deviennent les Pokémon.
Exactement, et ce qu'il y a d'amusant, c'est que Yamauchi était contre cette appellation Famicom.
Ah oui.
Ouais, pour plusieurs raisons, déjà parce qu'ils trouvaient que les contractions de ce type, comme Pasokong, Gamesang ou ce genre de choses, ils trouvaient ça puéril. Mmh. Et puis ils se sont surtout rendus compte d'une anecdote assez rigolote, c'est que le mot Famicom n'appartenait pas à Nintendo, il était protégé par une autre société.
D'accord.
Parce que pour la petite anecdote, il y a un four à micro-ondes qui s'appelle Famicom au Japon et qui est sorti avant la Family Computer. Et le jour où les gens ont commencé à appeler en masse Famicom, ils étaient un petit peu embêtés puisque c'était un mot qui appartenait déjà à quelqu'un d'autre, donc il a fallu négocier pour obtenir le nom Famicom. Voilà.
Donc à une époque où la prochaine console de Nintendo a comme nom de code café, eh bien à l'époque c'était un four à micro-ondes finalement. Nintendo aime bien le culinaire. Ouais. Donc pour resituer un petit peu les choses, la NES, la Famicom en cumulé dans le monde, et c'était colossal à l'époque, 63 millions de consoles vendues.
Ouais.
Et pour se donner un petit peu un ordre d'idée, puisque à l'époque vraiment elle représentait quand même 85% du marché mondial en 89, donc
ouais,
c'était colossal, elle écrasait le marché, elle le dominait de la tête et des épaules. Aujourd'hui par exemple la Wii c'est d'ores et déjà vendue à 86 millions d'exemplaires, soit plus de 20 millions d'exemplaires de plus.
Ouais.
La PSP, dont parfois avec des raccourcis un petit peu trop hâtifs, on dit la PSP, oui, ça a plus ou moins bien marché, c'est 67 millions d'exemplaires, donc plus que la NES. Donc on voit vraiment que le marché était quand même bien inférieur à l'époque.
Exactement. C'est ça qui est assez fascinant avec cette console, c'est que quand on regarde de façon assez brute et sans recul les chiffres de vente, 63 millions, c'est moins, comme tu l'as dit, qu'un certain nombre de consoles aujourd'hui, qui pourtant, comme la PSP, ne passent pas pour être non plus des cartons. Il y a des consoles qui font mieux. Et pourtant, c'est mieux que la NES et la Famicom qui, elles, d'un point de vue historique, ont marqué les esprits. Peut-être plus que la PSP dans 20 ans. Est-ce qu'on parlera de la PSP comme on parle encore de la NES? J'en suis pas certain. C'est d'un point de vue, en tout cas d'un point de vue japonais et occidental, la NES et la Famicom ont marqué les gens parce qu'elles ont apporté tellement de nouveautés qu'elles sont pionnières quelque part d'un point de vue hardware et d'un point de vue software. Elles sont pionnières à bien des égards, et comme tous les pionniers, même si derrière il y a des gens qui font mieux, c'est eux qui ont la chance de pouvoir garder leur nom dans l'histoire.
Et puis alors, elle est pionnière et surtout, c'est le berceau de tant de séries mythiques. Mario est né avec la NES, on va dire, parce que bien sûr...
Super Mario, on sait
que Mario était dans les Donkey Kong, mais le moment, son explosion grand public, le moment où il s'est fait connaître, c'est dans les aventures, les Super Mario, les fameux jeux de plateforme.
Ouais.
Zelda et Link sont nés avec la NES, Metroid, Dragon Quest, les Final Fantasy... Les Adventure Island, les Mega Man, tout cela ont connu leur début, leur grand début sur NES, et forcément, du coup, ça reste dans les mémoires.
Tout à fait. Puis il y a aussi des séries qui ont été démocratisées plus que ça. Par exemple, un Metal Gear qui n'est pas forcément né sur NES, mais en tout cas, c'est grâce à aux versions NES qui s'est surtout fait connaître dans un certain nombre de pays. Donc oui, il y a d'un point de vue historique, la NES a véritablement apporté son lot de licences qui aujourd'hui sont toujours très appréciées. Et le point de départ, il est là, c'est à partir de 1983 et cette fameuse console. Ouais.
Mmh. On va faire un petit tour rapide, puisque tout à l'heure, ils étaient, Traz et Julo, en train de réparer le studio de Gameblog.
Ouais.
Si vous avez la vidéo, vous avez pu vivre ça avec intensité. Traz, Julo, Raon, vous, à l'époque de la sortie de la NES, comment vous perceviez cette machine, Raon?
Alors moi, justement, c'est ça que je voulais aussi créditer à cette console, c'est que nous, en Occident, à l'époque, en tous les cas, moi, j'étais un joueur quasi exclusivement micro, c'est-à-dire Atari ST, etc., Commodore, machin, enfin, il y avait l'Amstrad CPC qui marchait aussi à l'époque. Et en fait, c'est la NES qui a finalement réorienté cet affect-là vers la console et vers le format console à l'époque. Moi, j'étais beaucoup plus micro, donc je suis un peu passé à côté en fait de la NES. J'y ai joué avec des amis et chez des potes, mais moi-même, j'en ai pas possédé en fait.
Être un homme.
Moi, c'est un peu pareil que Raon. Pour moi, la NES, ça a été ultra transparent. Je l'ai, pour ainsi dire, jamais connue. C'est comme si elle avait jamais existé pour moi. C'est étrange, mais effectivement, j'étais plus Atari ST, micro, les Vectrex, ColecoVision, etc., etc. Donc c'est vrai que je suis passé totalement à travers de cette console.
Ce podcast,
pour ainsi dire, jamais joué dessus, quoi.
Te permettre d'apprendre mille et une choses que
évidemment.
Tu sais depuis, bien évidemment. Julo, t'es un peu comme moi, toi. Par contre, la NES a été l'illumination.
Pour moi, c'est complètement culte. J'y ai joué. Enfin, je sais pas si on pourrait cumuler les heures comme aujourd'hui on le fait avec les joueurs de World of Warcraft, etc. mais je m'en rappellerai toujours. C'était mon papa qui me l'avait ramené des États-Unis et quand il est rentré avec ça, on jouait encore à l'Atari 2600 avec mon frangin. Et donc ça a été déjà une énorme baffe graphique en fait. Non mais c'est vrai, c'était une énorme baffe graphique.
3 pixels de plus.
Et on pouvait surtout, bah, tu vois, lâcher son imagination, enfin imaginer les développeurs lâcher leur imagination et puis imaginer tous les nouveaux concepts et puis on pouvait pas se les imaginer tous. Si ça arrivait, c'était toujours des surprises, etc. Ouais. Alors ça commençait avec des trucs très basiques, il y avait les Mario, et puis c'était surtout une console futuriste en fait, dans la tête des gens à l'époque, en tout cas comme elle a été marketée plutôt aux États-Unis et en Europe, en Occident quoi, où on a voulu y apporter tout un tas de gadgets. Il y avait le pistolet, il y avait Rob le robot.
D'ailleurs, pour l'anecdote, sachez que il y a donc deux couvertures distinctes pour cette histoire de Nintendo Volume 3. Il y en a une accessible aux éditions Pix & Love et puis celle de Mackey Books.
Exact.
Et sur celle de Mackey Books que je vous montre ici, donc en noir, assez classe, on voit un Rob le robot et sachez que c'est le Rob le robot de
Julien.
De
Julien.
Ah, c'est mon mien.
Exactement.
C'est celui de quand j'étais petit et que j'ai encore chez moi. Actuellement, il est chez Florent, mais
Qui a été ensuite modélisé en 3D, parce que c'est pas une photo, même si c'est bluffant.
C'est bluffant.
En 3D,
c'est
fait par Fabien Vautrin,
c'est balèze,
qui officie chez Kurokawa.
Et donc, pour continuer, donc c'était une console vraiment super futuriste pour nous à l'époque, et donc c'était un bonheur quoi de découvrir tous les nouveaux jeux. Et moi, j'ai fait mes armes là-dessus, enfin sur Atari 2600 plus exactement, mais tout a commencé pour moi vraiment de manière extrêmement puissante avec la NES. Et je crois que j'ai joué à des centaines de jeux dessus.
Florent.
C'est ce qu'il y a d'assez amusant avec ce que tu dis en fait, Julo, c'est que tu as déjà toi ressenti une claque graphique à cette époque, parce que de la même façon, moi j'avais un ami qui avait une Atari 2600 et j'ai eu la NES quelques mois plus tard. C'est clair que ça n'avait strictement rien à voir. Et encore, comme tu le disais tout à l'heure, Julien, elle est sortie en septembre 87. Et en 87, la NES existait déjà depuis 4 ans au Japon. Et c'est là, en fait, qu'on se rend pas compte du gouffre graphique qu'il y a eu en réalité au Japon. Et c'est pour ça qu'elle a tant marqué les Japonais. C'est que, autant nous, en 87, l'arcade avait une longueur d'avance sur les consoles. Mais en 1983, la Famicom, c'était réellement ce qu'on trouvait dans les salles d'arcade. Et pour les jeunes Japonais, c'est un argument extrêmement intéressant, et c'est pour ça que tout le monde s'est précipité finalement sur cette console.
Moi je me rappelle, hein, j'allais faire la queue au Mammouth de Cognac en Charente pour
Mammouth de Dijon,
essayer de faire la queue pour jouer, et puis comme j'étais tout petit
et la queue de Mammouth
et les grands me laissaient jamais jouer, mais j'étais hypnotisé effectivement par cette machine. Ce qui est intéressant de remarquer d'ailleurs, c'est assez symptomatique, c'est sur les deux couvertures de l'histoire de Nintendo Volume 3
machines,
c'est de voir qu'au Japon et en Europe, en Occident, en règle générale, c'est pas non plus la même console physiquement. Elle n'a pas la même forme, elle n'a pas les mêmes couleurs. Les manettes sont aussi changées. Il y a même des choses en moins. C'est-à-dire que sur la version japonaise, il y a même un micro dans les manettes qu'on ne retrouve pas dans la version occidentale.
Bah, disons qu'on parle souvent en fait du début des années 1980, en tout cas aux États-Unis, comme de l'Atari Shock, le crack des jeux vidéo, en tout cas de la console domestique aux États-Unis. Et quand Nintendo of America s'est demandé comment est-ce qu'on va bien pouvoir faire pour vendre notre console, ils ont été obligés de revoir un certain nombre d'aspects, et notamment l'aspect visuel. Comme l'expliquait Julo, elle a été marketée de façon à passer pour une machine high-tech et non plus comme une console de jeux vidéo. C'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve ce format un petit peu futuriste, évidemment d'un point de vue des années 1980. Et c'est une console qu'on était censé retrouver à côté du magnétoscope.
C'est pour ça qu'elle ressemble à un magnétoscope d'ailleurs, l'insertion de la cartouche sur notre version,
il fallait soulever le volet,
il fallait insérer la cartouche donc à l'horizontale et appuyer dessus pour qu'elle rentre à l'intérieur, alors que effectivement sur la Famicom japonaise, il fallait juste enfoncer la cartouche comme on l'a fait ensuite sur Super Nintendo.
Comme c'était le cas sur Atari 2600, effectivement ça faisait vraiment console de jeu pour le coup là.
Ouais, tout à fait. Donc
comme les VHS, c'est ça qui était le VHS, c'était le truc
C'était hype, c'était mode, c'était
mais même maintenant, je la trouve pas dégueu hein, au niveau visuel,
je trouve. Elle est assez épurée, donc forcément
c'est la couve qui est magnifique hein, parce que la console en tant que telle, elle est
rendu 3D bien foutu.
Et que je m'envoie des fleurs.
C'est pas moi qui l'ai faite la couve hein, mais j'envoie des fleurs au maquettiste Fabien, voilà.
Alors, Florent, avant de rentrer vraiment dans toute la partie anecdote, information sur la NES, vous allez voir, il va en avoir une bonne tripotée dans ce podcast.
J'en ai gardé des bonnes,
Un an et demi de travail, Et pendant cette période-là, quelle a été pour toi la plus grosse surprise, la plus grande découverte que tu as pu faire lors de tes recherches ?
Eh bien écoute, il y en a vraiment un grand paquet. Encore une fois, avec les volumes 1 et 2, je pense qu'un certain nombre de lecteurs ont été surpris de voir un peu un Nintendo sous un autre jour, présenté d'une façon dont on n'avait pas forcément conscience. Et en partant au début sur la Famicom et la NES, je me suis dit, est-ce que je vais vraiment pouvoir trouver des trucs qu'on ne sait pas ? Et il y en a eu un grand nombre. Une des plus grosses découvertes pour moi, ça a été une remise en cause en fait de toute l'histoire du jeu japonais.
Ouais.
Et je l'explique d'ailleurs pratiquement à la première page de l'historique. On a toujours eu en fait en mémoire la percée des pionniers américains en se disant de toute façon c'est Ralph Baer qui a inventé la console de jeux vidéo, Atari a tout explosé. Mmh. Les Japonais arrivent derrière. Mmh. Et en fait, je me suis rendu compte, j'ai découvert assez rapidement que Nintendo était impliqué dans le développement de l'Odyssée, la première console.
Ah oui.
Voilà. Et ça m'a choqué, quelque part.
Impliqué de quelle manière ?
Eh bien, figure-toi que ceux qui ont lu le premier volume, en fait, se souviendront peut-être d'un jouet en particulier qui était le pistolet optoélectronique.
Ouais.
Et qui permettait de tirer avec des flashs stroboscopiques. Et en fait, Magnavox et Ralph Baer, au début des années 70, quand ils ont lancé le prototype de l'Odyssée, ils avaient aussi en tête de développer un pistolet optoélectronique. Et ils avaient mis au point des prototypes et ils ont rapidement découvert que Nintendo faisait un carton avec ces fameux jouets, qu'ils avaient une technologie, une force de production. Et donc Ralph Baer a contacté, par le biais de Magnavox, le Japon et plus particulièrement Nintendo pour leur demander de développer et de commercialiser en fait les pistolets optoélectroniques de l'Odyssée. Et ça s'est pas arrêté là puisque finalement Nintendo a développé plusieurs centaines de milliers d'armes de jeux vidéo. D'accord. Donc pour d'autres sociétés comme Coleco, etc. Mmh. Donc dès 1972, c'est-à-dire la première console du jeu vidéo, Nintendo est carrément impliqué dans le marché du jeu vidéo. Donc comme quoi les Japonais sont pas forcément à la traîne, même si Nintendo participe de manière un peu indirecte, il est déjà sur le marché du jeu vidéo et surtout il regarde ce qui se fait à côté, il ouais. connaît déjà, il a l'occasion de pouvoir constater, exactement, tâter le terrain. Mm-hmm. Donc ça a été une des découvertes. Ensuite, plus particulièrement pour la France, parce que c'est vrai que c'est une partie dont je suis assez fier, je crois qu'on a qu'on a réussi à trouver un certain nombre de documents et de chiffres qui remettent beaucoup de choses en compte, comme par exemple la fameuse rivalité Sega, Nintendo. Et en creusant un petit peu, on se rend compte que c'était pas tout à fait la réalité. Donc ça, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure.
On va en parler tout à l'heure, ouais, bien sûr.
Voilà. Sega, Nintendo, vraiment des rivaux, je sais pas, je pense pas.
on va en parler. Mais allez, on va partir au Japon.
Ouais.
Commencer véritablement cette historique de la Famicom, et on va commencer du coup par sa conception. Tu nous parlais d'un pari qui était quasiment impossible à relever à l'époque de la part de Nintendo. Pourquoi ?
Ouais, en fait, Nintendo était déjà présent dans le domaine de l'arcade. Mmh. Et si on replace un petit peu l'arcade à cette époque dans le contexte, hormis du Donkey Kong ou du Pac-Man, qui étaient des jeux orientés un petit peu tout public, on avait en fait que des tirs contre des aliens, des shoots, etc. Donc les salles étaient fréquentées pratiquement exclusivement par les hommes.
Ouais.
Avec tous les problèmes que ça peut créer, les voyous, enfin tout ce genre de choses. Donc
c'était
l'arcade,
pas très bien famé, on va dire.
Exactement, ouais, c'était même pour le coup, ça avait très mauvaise réputation. Mm-hmm. Et Yamauchi en fait se disait tout simplement, mais pourquoi est-ce qu'on est obligé d'envoyer les gens jouer dans des lieux comme ça ? Est-ce qu'on peut pas les faire jouer directement chez eux, tout simplement ? Et donc la première demande de Yamauchi envers son employé de la RN22, Monsieur Uemura, ça a été: tu vas nous développer une machine, une borne d'arcade, mais pour les foyers.
D'accord.
Tout simplement.
À puissance équivalente, du coup.
Exactement. D'accord. Et proposer la même chose. Voilà, le concept de départ, c'est proposer une borne d'arcade à la maison. Mmh. Et le souci, c'est que
c'est un peu gros.
Non seulement c'est un peu gros si tu veux prendre une borne. Ensuite, on sait très bien que les cartes mères de cette époque coûte une véritable fortune.
Ouais.
Et si on veut une borne avec des jeux interchangeables, puisque c'était le concept, c'est pas évident d'arriver à trouver une machine qui puisse gérer des jeux différents avec un système de cartouches, mais qui soit aussi performant que ce qui se propose à l'époque. Et surtout, la chose qui ne correspond pas et qui est là pour le coup, qui paraît impossible, c'est que Yamauchi demande à ce que sa console elle soit vendue 3 fois moins cher que la concurrence.
Donc il y a beaucoup quand même d'éléments effectivement complexes. Il y a la taille, il y a le prix, il y a aussi la technologie. C'est quasiment impossible. Comment ils ont trouvé alors que...
C'est quasiment impossible. Alors pour ils ont réussi à faire rapide. Ils se sont débrouillés déjà pour tirer tous les prix, mais alors au rabais, ouais. Tout simplement avec un certain nombre de techniques. De toute façon, leur partenaire principal qui était Ricoh s'est aligné sur les prix que Nintendo demandait. Et ils ont surtout, contrairement à tous les autres éditeurs, oublier en fait de se prendre une marge. Donc c'est un petit peu le côté, c'est un petit peu ça l'originalité de cette console, c'est que pour la première fois une console de jeux vidéo ne marge pas sur la machine. Nintendo
ça a bien changé depuis.
Oui.
Voilà, mais Yamauchi a toujours répété, c'était un petit peu sa rengaine, une console de jeu, c'est qu'une boîte. Et tant qu'on n'y met pas des jeux, ça reste une boîte à la boîte performante, etc.
L'éternel concept du rasoir à lame jetable. On se fait de l'argent sur les lames et non pas sur le rasoir.
Exactement, Barbie le faisait déjà, hein, donc Mattel le faisait déjà aussi. Les Barbie sont pas forcément très chères, elles sont vendues à prix coûtant, mais les accessoires sont hors de prix. Donc il reprend un petit peu le même principe, mais dans le domaine du jeu vidéo, c'est très rare. Et Nintendo peut se le permettre, contrairement à certains autres constructeurs, parce que non seulement Nintendo fait du hardware, mais il fait surtout du software. Donc contrairement à un certain nombre de fabricants comme, je sais pas, comme Sony à ses débuts, ils n'ont pas forcément beaucoup de studios de développement, mais Nintendo, eux, a la force créatrice pour faire du software, et c'est là-dessus qu'ils vont décider de marger. Voilà.
Et justement, arrive une question, est-ce que la Famicom, la Family Computer, dès le début a rencontré son public? Est-ce que justement réussir cette prouesse de faire ce que tu disais, finalement une borne d'arcade à domicile, d'arriver avec la première machine comme ça, avec les jeux interchangeables de cette qualité au Japon, est-ce que ça a connu un engouement immédiat ou est-ce qu'il a fallu attendre un petit peu?
Pas tout à fait en fait. En juillet 83, parce que c'est la date de sortie de la Famicom, il y a à peu près 15 consoles qui sont alignées les unes derrière les autres dans les boutiques, dans les grands magasins japonais. Et en fait, ça va se faire surtout par le bouche à oreille, et surtout d'un point de vue visuel, il y a un certain nombre de choses qui marquent les gens, ne serait-ce que Donkey Kong. Nintendo a placé en fait son concept de façon à ce que les capacités de la console permettent une fluidité d'animation et un affichage de couleurs extrêmement puissant. Contrairement aux autres consoles, comme toutes les autres concurrentes, il n'y avait pas de clavier. Et les processeurs utilisés dans toutes les consoles concurrentes étaient des processeurs qui permettaient de, non seulement de gérer des tableurs, de permettre à des logiciels de dessin de fonctionner. Ce qui fait qu'au final, les processeurs de ces consoles faisaient un peu de tout, mais rien de très performant dans le détail. Or, la Famicom, le processeur utilisé a été customisé de façon à ôter toutes les fonctions qui auraient pu servir en temps normal dans un ordinateur pour accélérer la vitesse d'animation et l'affichage de couleurs. Donc ça, visuellement parlant, ça flashait. Tu regardais des écrans de toutes les autres consoles sorties au même moment, il y avait pas photo.
Ça bavait un peu, etc.
Ouais, très clairement. Quand tu voyais un Donkey Kong qui avait une taille qui était trois fois plus grosse avec quatre couleurs pratiquement dans le même sprite et qui occupait une grande place sur l'écran. Bon, aujourd'hui, ça paraît dérisoire, mais c'est à cette époque où le moindre sprite en fait peut difficilement faire plus dans les consoles de cette période, faire plus d'une couleur, ça n'a... Nintendo ne fait pas de publicité à son lancement. Il faut attendre pratiquement la rentrée.
Il le lance comme ça presque un petit peu dans le silence ?
Oui, tout à fait. La première pub qu'on a retrouvée, en fait, on a un certain nombre de moyens de savoir à peu près quand elle est sortie, mais la première pub qu'on a retrouvée, elle date de septembre, alors que la console est sortie en juillet.
À la fois, on pourrait se dire qu'aujourd'hui, par exemple, les consoles ne sortent plus l'été, c'est plutôt soit vers la période de mars, soit plutôt vers la fin d'année pour justement bénéficier de ces périodes d'engouement au niveau de la consommation. L'été étant une période un peu plus molle, puisque les gens sont en vacances, ils ont d'autres choses à faire, d'autres styles de dépenses.
Justement, au Japon, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à cette époque, les salles d'arcade sont interdites. Enfin, les parents et les profs essaient absolument d'interdire aux enfants de fréquenter ces salles d'arcade. Et la période, en fait, du 15 juillet correspond à l'arrivée des grandes vacances au Japon. Donc, c'est évidemment voulu par Nintendo, évidemment. Ce qui fait que les enfants étant maintenant en grandes vacances, la grande crainte des parents, c'était de se dire ils vont passer leur journée dans
D'accord.
les salles d'arcade.
Donc c'est stratégique en fait.
Ça fait bien sûr partie de la stratégie. Alors le bouche à oreille a finalement fonctionné. Il faut attendre quand même 2 mois pour qu'elle commence à décoller. Mmh.
Elle était vendue à combien à peu près à l'époque ?
14 800 yens, on va dire 15 000 yens.
Ce qui nous fait combien en euros à peu
près ? En euros constants, c'est difficile, mais c'est environ 120 euros.
D'accord.
Alors que toutes les autres consoles coûtent minimum 25 000 yens
ouais,
pour
accessible.
Des performances moindres.
Mmh. Et les jeux se situaient dans quelle fourchette de prix ?
3 800 yens au début. Ouais. Et c'est vraiment au début parce que ça ne va pas tarder à monter rapidement. 3 800 yens, c'est 30 euros le jeu. Quoi.
D'accord.
Ouais.
Ok. Donc effectivement, on reste quand même dans des tarifs assez abordables.
Très abordable, ouais. Mais le software, 3800 yens, resitué dans le contexte de l'époque, c'est cher. Mmh. Parce que les jeux sur PC qui étaient sur des cassettes audio, c'est entre 1000, 1500 yens, 2000 yens. Donc c'est pratiquement le double. Ah oui, ouais. Donc on se rend compte que là, Nintendo fait de la marge quand même. Hein, parce que voilà, c'est son seul gagne-pain, puisqu'il ne fait aucune marge sur les consoles, il les vend à prix coûtant. Voilà.
Les éditeurs suivent ?
En fait, les éditeurs suivent rapidement à partir du moment où Mario Bros sort et qui s'en vend 400 000 en 1 ou 2 mois.
C'est lui le déclencheur de tout, en fait.
Oui, de la Famicom en tout cas, c'est surtout ça qui va déclencher le début de la Famicom.
Avec le Zelda peut-être aussi, non ?
Oh, c'est bien plus tard. Zelda, il arrive en février 86. Et ce qu'il y a d'extrêmement étonnant aujourd'hui, et ça fait partie des découvertes un petit peu rigolotes, c'est que Nintendo, en 83-84, refuse systématiquement que les éditeurs tiers publient sur sa console. Il y a différentes raisons à
bon
ça.
Comme quoi. C'est-à-dire qu'au début, ils restent tout seuls.
Déjà, ils ne veulent
que... sur NES.
Ah, mais il y a une raison très simple pour ça. C'est que il faut se restituer là encore dans le contexte de l'époque, mais Nintendo ne marge pas sur ses consoles. Donc ils n'ont qu'une seule façon de gagner de l'argent, c'est des jeux.
Et leur jeu en l'occurrence.
Et leur jeu en leur occurrence, il n'existe pas le système de licence, ça n'existe pas. Atari laissait les gens développer comme ils voulaient sur l'Atari 2600.
C'est ça qui les a tués d'ailleurs.
C'est ça qui les a détruits, le fameux crash Atari. Et puis sur les ordinateurs, les PC, etc., la plupart du temps, il y avait des listings entiers où on pouvait retaper ces jeux. N'importe qui était libre de développer sur ces machines.
Alors là, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que bien évidemment, chaque développeur, éditeur qui conçoit et publie un jeu, que ce soit sur la Wii, la DS, la PSP, la Xbox, ou quoi que ce soit, paye des royalties, un acte de licence justement au constructeur, Sony, Microsoft,
et même plus.
Nintendo.
Et même plus parce qu'il achète aussi son
le droit de
aussi.
Etc. Voilà.
À l'époque, ce n'était donc pas le cas pour la NES.
C'était pas le cas. Nintendo était censé être le seul développeur à publier des jeux sur sa console. Parce qu'il voulait évidemment pas que d'autres viennent lui piquer
son pain,
tout simplement.
Donc il l'interdisait carrément.
Il l'interdisait, oui. Tout à fait, il l'interdisait et à partir du moment où la Famicom a commencé à se vendre à plusieurs centaines de milliers d'unités, t'as un certain nombre d'éditeurs tiers qui se sont empressés, bien sûr, c'est les Japonais, ils essaient de faire des demandes qui ont toutes été refusées jusqu'au moment où ils ont été obligés de céder pour différentes raisons. Et vous voulez que je vous les donne, j'imagine.
Ah bah oui, c'est...
Des raisons légales aussi, j'imagine, parce que je pense pas que tu puisses interdire comme ça.
Ah bah si, ça t'appartient, t'imagines.
Oui, ils ont...
C'est quand même étrange.
De toute façon, il y a des brevets. Il y a des brevets. Donc les éditeurs tiers ne pouvaient pas, ils savaient qu'ils allaient se prendre des procès derrière, ils ne pouvaient pas...
Puis tous les formats, fallait pouvoir les fabriquer ces cartouches, il fallait... Il y avait un certain nombre de goulots d'étranglement qui empêchaient les gens de faire ça, quoi, d'eux-mêmes.
Alors il y avait déjà l'incompréhension parce que encore une fois à l'époque le système de licence n'existe pas et toutes les consoles se vendent à 30 000, 40 000, 50 000 unités.
C'est tout.
Les consoles japonaises en tout cas de cette époque.
Très confidentiel.
C'était très confidentiel. Je veux dire chaque fabricant de télé avait sa console et etc. Donc ça n'intéressait pas. Il n'y avait pas le concept d'éditeur tiers en tout cas au Japon. Mais la Famicom a véritablement déclenché ce phénomène d'éditeur tiers. Et Nintendo s'est retrouvé un petit peu victime de son succès parce que d'une part c'était l'incompréhension totale, tous les Namco, les Hudson, etc. disaient mais pourquoi vous nous laissez pas produire sur votre console alors que Atari le faisait pas, sur les micros on est libre, donc il y avait une incompréhension, une pression extérieure qui était telle qu'au bout d'un moment ils ont été obligés de s'assoupir un peu. Et puis la deuxième raison c'est surtout que, et ça fait partie des anecdotes dont je suis fier, mais la Famicom était pas censée vivre plus de 3 ans. Nintendo avait dans son concept l'intention, après c'était un produit parmi les autres, la Famicom. Alors on a toujours tendance à croire que la Famicom c'était le fer de lance et que Nintendo n'avait plus que ça, il ne voulait faire que ça, ce qui est faux. La Famicom c'était un autre produit parmi les autres et ils avaient d'autres projets, pas forcément dans le domaine des consoles, à développer, et il se dit bon, on va essayer d'entretenir la vie de la console 3 ans et après on passera à autre chose.
Comme un jouet en fait,
c'est un jouet, comme ce qu'ils faisaient à plus ou moins. Voilà.
Donc et finalement, c'est le succès stratosphérique de la Famicom qui fait que, un, ils se sentent obligés de prolonger son espérance de vie, sa durée de vie, et ensuite d'accepter de faire des licences, d'accorder des licences aux autres éditeurs et aux autres développeurs. Mais là, du coup, le principe de royalties apparaît, j'imagine.
Il apparaît, mais la dernière raison, et qui est importante, je pense, qui explique pourquoi Nintendo est obligé de céder, c'est parce que, victime de son succès, les studios internes de développement ont déjà épuisé le catalogue arcade de Nintendo. D'accord. Parce que les Donkey Kong, ok, on l'a eu, le Mario Bros, ok, on l'a eu, le Donkey Kong Junior, ok, on l'a eu, on a eu un jeu de Mahjong, un jeu de baseball, mais voilà, ils ont un temps de développement, il y a 3 équipes qui sont en gros chargées de faire des jeux, mais ils sont débordés, il y a une demande qui est telle qu'il y a finalement la première année, il n'y a que 9 jeux qui sortent, ça fait même pas un par mois, enfin vous voyez, c'est à peu près ça. Donc et à chaque fois c'est un jeu, tous les mois il sort un jeu, mais c'est un genre totalement différent. Donc celui qui n'aime pas les jeux de foot et qui est obligé d'attendre 2 mois pour espérer avoir peut-être quelque chose qui corresponde plus à sa demande, finalement ça se retourne contre eux, parce qu'ils se disent mais si on leur propose pas du soft rapidement, on va se retrouver, nous, avec une machine qui n'a pas de jeu et des gens qui seront dégoûtés, qui vont passer à autre chose. Et d'un autre côté, ils ont très peur de ce qui s'est passé aux États-Unis avec Atari. Se dire, si on laisse faire n'importe quoi, il va y avoir 200 jeux tous les mois. Et puis, ça va être n'importe quoi.
Ouais, parce qu'effectivement,
leurs propres titres vont être noyés aussi là-dedans.
Au niveau mondial, au niveau pour ces contemporains de la chute de l'aspect occidental des consoles qui existaient avant.
Américains,
parce que américaines, oui, en l'occurrence. Hein, y avait pas, je crois pas qu'il y avait de consoles européennes à cette époque-là.
Non, je crois pas. Non,
mais parce que justement, donc effectivement, comme l'a dit Florent avant, Atari c'était libre. Donc ce qui se passait à l'époque, c'est qu'en plus il y avait très peu de protection juridique, il n'y avait pas autant de brevets qu'aujourd'hui, il n'y avait pas aucune forme de protection, donc il y avait des clones qui apparaissaient tout le temps, des petites sociétés qui faisaient des petits jeux pourris et qui ont finalement complètement inondé le marché de jeux qui ne valaient pas grand chose, et les gens
ça a
étouffé complètement en fait.
Une fois qu'ils ont acheté 2 jeux et qu'ils se sont rendu compte que c'était pas bien. Parce qu'en plus, bon, l'Atari 2600 est une console fabuleuse, mais d'un point de vue technique, technologique, ça devenait difficile, après 5 ans quand même, c'est quand même 5 ans la tenue au moins, ça devenait difficile d'innover. Donc on se retrouvait toujours avec des jeux développés à la va-vite, graphiquement très pauvres, et les joueurs se sont lassés, d'où ce fameux crack américain.
Alors la ColecoVision, elle tuait, mais bon, les actions sur ColecoVision.
Julo.
Alors, c'est pour ça en fait qu'aux États-Unis, je sais pas si c'était le cas au Japon, mais t'avais le Seal of Quality de Nintendo qui voulait montrer aux gens que Nintendo avait un regard sur la qualité des jeux qu'on leur proposait et qui sortait pas n'importe quoi en fait. C'était en réaction par rapport à ça.
Et ça c'est important. C'est important en fait que tu mentionnes ce fameux Seal of Quality.
C'est le label rouge version jeu vidéo.
Label rouge version jeu vidéo. On a rapidement découvert aussi que le Seal of Quality n'existait pas pour la Famicom. Mais attention, ça nous retombe dessus.
Décidément.
Il n'existe pas en fait le Seal of Quality au Japon. Il y a une raison en fait très particulière au fait. Je sais pas, j'ai été un peu perturbé par ce que
non, t'inquiète pas.
Tout marche comme prévu. Ou
ouais, je sais plus où j'en étais moi. On parlait de la version japonaise du Seal of Quality. Ouais, je voulais dire un truc intéressant.
Il n'existe pas au Japon, on s'est rendu compte que.
Ouais, il existe pas au Japon. Ouais, exactement. Dans tous les livres d'histoire qui traitent de l'histoire de la Famicom ou de la NES, il y a écrit une chose intéressante, mais qui est néanmoins pas très juste, qui dit Nintendo, pour éviter la débâcle d'Atari, de reproduire ce même phénomène, décide de contrôler la qualité des jeux. Or, c'est faux. Nintendo n'a pas le droit de contrôler la qualité des jeux. En tout cas, moi je parle du Japon pour le moment. N'a pas le droit de contrôler la qualité des jeux pour une raison qui est simple, c'est qu'ils font payer des royalties, ils font payer un droit d'entrée. À partir du moment où les gens payent en disant on achète votre licence, ok, ils ont un droit de regard sur le contenu, autrement dit s'il n'y a pas de violence, s'il n'y a pas de sexe, etc. Mais ils n'ont pas le droit de dire votre jeu il est pas bon. D'accord. Parce que c'est pas fair d'un quelque part. Nintendo étant lui-même éditeur, avec quel recul et surtout quel objectivité, ils peuvent se permettre de dire votre jeu il est pas bon, on veut pas le sortir, c'est interdit. Donc ils ne peuvent pas en fait éviter les bouses, et Dieu sait qu'il y en aura beaucoup sur Famicom aussi. Par contre, ils vont trouver quelque chose d'ingénieux dans le cadre de cette fameuse clause de licence, c'est la limitation du nombre de jeux par an. Ça C'est très malin. C'est très malin à plusieurs égards. D'une part parce que avec un nombre de jeux limité, en l'occurrence 3 au début,
par éditeur,
ça permet.
Alors donc juste pour être sûr, donc Nintendo n'autorise, ne donne pas plus de 3 fois la licence par an à un éditeur unique, c'est ça?
Exactement. Bon, alors il y a toujours une exception à la règle. Il y a les 6 premiers éditeurs, Namco, Hudson, etc., qui arriveront avant le durcissement de cette fameuse concurrence, qui fait que eux ils sont libres en fait de développer autant de jeux qu'ils veulent. Mais à partir de la fin 84, quand là tout le monde veut développer, ils durcissent la licence et ils imposent cette règle de 3 jeux maximum.
Est-ce qu'ils n'auraient pas dû faire ça avec la Wii?
Oh le lourd. Mais et la DS, hein, parce que
voilà, la DS, il y a eu des grands,
les Fort Boyard, les Interville, oui, et certes, autres compagnies,
quand t'as la Jaguar,
Koh-Lanta,
mais ça laisse de toute façon, et c'est ça qui est intéressant, ça laisse aux développeurs le temps, croit-on, alors de peaufiner leur jeu pendant 4 mois, puisque Nintendo estime qu'il faut au minimum 4 mois pour développer un jeu un minimum intéressant, et ça évite un nombre trop présent de jeux développés en 2 mois parce que la console cartonne, et donc voilà. Avec 3 jeux par an, en fait, les éditeurs, surtout quand ils sont petits, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Donc ils peaufinent leur jeu parce que comme ils n'ont que 3 chances, ils sont obligés au moins d'en réussir un bien dans ces 3-là. Donc c'est plutôt malin, en fait.
Donc ça les obligeait vraiment à booster leur production, voilà. À faire de qualité, quoi.
Et pour une console qui a duré, bon, évidemment, moi je suis parti de 1983 à 2003 parce qu'il s'est passé tellement de choses qu'en 2003 c'est l'arrêt de la production réelle.
C'est incroyable.
Mais
jusqu'en 2003, il y avait encore des NES qui sortaient de l'usine.
Exactement. Ils s'en vendaient toujours 5000 par mois.
Mais que pour le Japon, 5000 par mois.
Ouais. Donc
sur les marchés brésiliens, etc.
Non, sur au Japon. La Famicom AV, ils s'en vendaient toujours 5000. Mais vous savez, le marché de l'occasion au Japon étant tellement présent, il y avait tellement de collectionneurs que bon, ils s'en vendaient toujours. Elle était pas chère et puis c'était une bonne introduction aux jeux vidéo, quoi. Donc voilà, il y a eu que 1250 jeux quand même sur Famicom, parce que derrière on sait que les PlayStation, etc., il y en a eu plusieurs, 5000, 6000, je sais pas combien, mais en tout cas c'est gigantesque
minimum.
Il y en a eu beaucoup plus aussi sur Game Boy, donc c'est une console qui a marqué, mais il n'y a pas eu tant de jeux que ça finalement. Quand on y regarde bien, 1250, c'est relatif, c'est pas tant que ça.
Et c'est une machine aussi qui a tenté aussi plusieurs voies assez innovantes. Alors on en parlait tout à l'heure avec le fameux zapper, donc le revolver, avec Rob le robot. Tu vas nous expliquer un petit peu de quoi il s'agissait quand même pour ceux qui ne sauraient pas, parce que on le connaît, enfin ce robot, mais qu'est-ce qu'il faisait? C'est vraiment ludique. Et puis on parlera tout à l'heure aussi après du disque système.
Ouais.
Et ça c'est quelque chose d'assez révolutionnaire. Mais commençons avec Rob le robot.
Alors. Juste avant Rob le robot, on peut parler du zapper, le fameux pistolet laser qui reprend en fait le concept déjà utilisé dans les pistolets optoélectroniques. Tout à l'heure, ce que je disais, quand je disais que Nintendo voulait essayer de tenir 3 ans avec sa console, Nintendo évidemment était au courant de ce qui se passait chez la concurrence. Il voyait bien que les consoles avaient un cycle de vie qui était extrêmement court à cette époque au Japon. C'était du jouet, les joueurs s'en lassaient très vite, donc ça durait 1 an. Il n'y avait qu'à voir ces consoles d'avant, hein, toutes les Color TV Game, etc., ça durait moins d'1 an. Et Nintendo se disait, il faut absolument tous les ans leur proposer aux joueurs quelque chose d'original qui relance l'intérêt de la console. On est vraiment à une époque où tout reste à inventer. Hein. Yamauchi Uemura ne se disent pas, ne pensent pas que la console va durer 3 ans. Juste avec des jeux. Il leur faut à chaque fois une nouvelle façon de jouer. Donc le zapper, c'est une façon de renouveler l'intérêt. Le robot, c'est aussi une autre façon de renouveler l'intérêt.
Mais alors qu'est-ce qu'on fait avec ce robot?
En fait,
Florent,
ce robot,
gauche-jeu.
Ce robot, en fait, il a été développé surtout pour le marché américain. Hein. Ouais. C'était pour ajouter un petit peu à l'originalité de la console et faire croire que c'était pas juste une machine de jeux vidéo, mais c'était surtout une machine
d'entertainment. Il était d'ailleurs là dès le lancement américain.
Et exactement. Et le robot, en fait, permettait, quand on n'avait pas d'amis, de jouer avec un compagnon.
C'est le Facebook de l'époque, en fait.
C'est pour ça que tu l'avais, Julo?
Bien sûr. Non, parce qu'en fait, c'était.
Allez, à vous.
C'était vraiment. Non, parce qu'on jouait avec mon frangin, mais on voulait quand même jouer avec Rob parce que c'était incroyable de technologie, etc. Mais en fait, c'était très chiant. C'était avec un jeu qui s'appelait Gyromite
et Stack Up.
Voilà. Et donc,
il y
en
eu
gros.
Que deux jeux?
Ouais.
Ouais. Comme la Wiimote, hein. Ouais, la Wii Balance Board.
Non, mais vraiment.
Et donc, Virtual Boy, il n'y en a pas eu beaucoup plus.
Ce robot a deux bras qui se resserre sur une toupie. Une toupie qui est tournée automatiquement sur un moteur. Donc en fait, il bouge son buste vers la gauche ou la droite, il prend la toupie et il pose la toupie soit sur un bouton rouge, soit sur un bouton bleu. Qui sont reliés à une manette, la manette numéro 2, qui est posée dedans. Et quand tu poses la toupie, donc qui tourne sur elle-même, elle va rester debout sur le bouton. Ça va appuyer sur le bouton A ou sur le bouton B.
Donc ça permet de jouer.
Voilà. C'est génial.
Et en fait, Rob le robot, regarde l'écran. Ouais. Et il capte en fait que tu arrives devant une porte.
Ça se voit,
si c'est une
yeux,
porte bleue, il va lumineux. Prendre la toupie et la mettre sur le bouton bleu. Et si c'est une porte rouge, il va la prendre.
Donc en fait, tu
et la
joues
mettre sur
avec
rouge.
Un pote virtuel qui est très très lent
qui
aussi.
Qui est très
hein.
lent, ouais. Voilà. Et donc très chiant.
Très bien.
Ou pas.
L'idée est sympa, mais honnêtement, ça reste
bien,
de l'ordre du
top.
Gadget.
Mais en fait, c'était. Ouais, c'est gadget. Une fois que tu l'as, tu le sais, mais au moment où tu es là et
quand
tu es dans le magasin,
vois, effectivement,
voilà,
j'imagine.
Tu es dans le magasin et tu vois le poster avec tous les jeux et Rob le robot.
Ça fait envie, c'est sûr.
C'est incroyable, c'est magique,
ouais. C'est un argument de vente, tout simplement, quoi.
Et très décevant une fois que tu l'as, ouais.
Et alors ce fameux disque système.
Oh, tu sais.
De quoi s'agit-il véritablement ?
Eh bien.
Florent Gauche.
Le disque système, c'est un accessoire que nous n'avons pas eu la chance de connaître chez nous, en Occident, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Mmh. Et qui permettait en fait de relancer considérablement l'intérêt. Pour la consommation du jeu vidéo. Bon, je fais ça de façon assez rapide, mais Nintendo s'était rendu compte que le prix des jeux, enfin Nintendo, tout le monde s'est rendu compte que le prix des jeux était passé très rapidement de 3800 yens à plus de 5000 yens, que le prix des ROM, parce que la demande était très forte, ne cessait d'augmenter sans arrêt. Et donc les jeux devenant de plus en plus chers, ça posait un problème évident. Est-ce que les joueurs allaient continuer d'acheter des jeux, surtout pour des petits concepts, genre des puzzle games qui... Les RPG, ok, on veut bien mettre 5 000 yens dedans, mais un petit puzzle game, etc. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc, ils avaient un petit peu peur de ça. Donc, ils se sont dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de proposer un autre type de consommation du jeu vidéo et de ne plus être tributaire de ces fameux problèmes de ROM de plus en plus
cher.
Voilà, de plus en plus cher. Donc Nintendo, avec l'aide d'une société appelée Mitsui, développe ce fameux lecteur de disquettes que l'on utilise couplé avec la Famicom et qui va permettre de graver et de changer des jeux à volonté. Pour un prix extrêmement intéressant, puisque c'est de 4 euros.
Ah oui.
Voilà. Et le concept assez génial de ce truc-là, c'est que non seulement tu peux sauvegarder ta partie en cours, le concept de la pile de sauvegarde n'existe pas encore. Donc on avait toujours recours au système de sauvegarde par mot de passe. Non seulement tu peux sauvegarder tes jeux en cours de route, et en plus, si tu vas dans une boutique de jeux vidéo, il y a des bornes, ce qu'on appelle les bornes disque writer. Et qui, une fois inséré, tu peux effacer un jeu que tu avais au préalable mis dans cette cartouche et en acheter un autre que tu mettais dessus pour seulement 500 yens. Voilà.
Donc là, c'est dérisoire. 500 yens, c'est quoi?
C'est 4 euros.
4 euros.
Donc la disquette servait pour plein de jeux, quoi.
On pouvait remplacer la disquette à volonté, à l'instar d'un jukebox. Il faut s'imaginer en fait un distributeur comme un distributeur de n'importe quoi. On met sa disquette dedans et on choisit un jeu parmi Zelda, parmi Metroid, parce que c'est sur ce périphérique que sont nés Zelda et Metroid. Donc pour 4 euros, on pouvait jouer à Zelda ou à Metroid.
C'était super en avance hein, quand ils pensent.
C'était carrément en avance.
Et ça a marché ça ? Ça a connu un vrai engouement ?
Alors très honnêtement, ça a cartonné. Les joueurs ont adoré. Il y a eu des millions de téléchargements faits.
Alors pourquoi ils l'ont pas décliné en Europe et en Occident en général ?
Il y a eu.
Parce qu'on n'est pas assez avancé intellectuellement.
Alors il y a le souci, c'est que le disque système s'est retrouvé encore une fois victime de son succès.
Piratage ? Non.
Déjà, il y avait le piratage en études.
Parce que c'est le même système que sur les micros aussi à l'époque. Hein. Il y avait des disquettes, on réinscrivait des jeux, etc. Donc,
c'était un peu simple. Hein,
mais c'était les mêmes disquettes, c'est du quick disk.
On en voit
c'est
juste
du quick
là,
disc,
par exemple.
Ouais.
Ici.
Donc c'est un format qui existe déjà pour d'autres systèmes, hein, le quick disk, notamment le MSX en avait. Bon, évidemment, ils ont été protégés. Hein. Les disquettes ont une forme un petit peu différente, avec notamment un logo Nintendo gravé qui permettait de bloquer le jeu s'il n'y avait pas ce fameux logo une fois la console insérée. Mais voilà, le principal problème, en fait, c'est que, d'accord, ça, les joueurs adorent. Ils n'ont jamais autant consommé de jeux de leur vie. Franchement, ils jouent un jeu, il est pas bon, mais ils s'en foutent. Pour 4 euros, ils vont aller le changer.
C'est comme sur
c'est ça.
C'est comme aujourd'hui, on va dire.
Voilà. Et puis, mais le souci, c'est que voilà, c'est 500 yens. 500 yens, vous vous rendez pas. Enfin, c'est le même problème qu'aujourd'hui, mais une fois que tu as laissé la marge aux commerçants, que Nintendo a pris ses royalties, il reste quoi ? Il reste rien du tout, en fait, aux développeurs. Et donc, si les joueurs en redemandent, eux, les développeurs, ils vont pas tarder à faire.
Grise mine.
Donc, ça, c'est aussi une des raisons du fameux échec du disque système. Et puis l'autre raison, c'est que ben, le disque système, il se cantonne toujours à sa place mémoire telle qu'elle est. Autrement dit, les ROM, plus les années passent, plus les mois passent, plus les capacités de stockage sont importantes. Ouais. Et on voit très rapidement arriver des ROM de 1 méga. Alors que le disque système, qui était énorme pour l'époque, alors que le disque système, lui, il se contente toujours de ses 112 KO, quoi.
Mais c'est pas beaucoup, quand même.
Non, c'est pas beaucoup, mais ça a permis de faire tourner quand même des jeux comme Zelda, ce qui était impossible sur cartouche, ou alors il fallait le vendre très cher. Mais voilà, il se retrouve limité, en fait, parce qu'on va voir même des jeux développés en deux épisodes. Il faut
à la suite, voilà, prochain disque.
C'est ça. Mettez le disque
DLC, 2, quoi. Mais dans 6 mois.
C'était ça. Donc, en fait, il y a plein de petites raisons qui font que le disque système, qui était un accessoire génial, vraiment novateur, parce qu'il y a des tonnes de tentatives qui ont été faites, des concepts nouveaux qui ont été lancés grâce à ça, et notamment le téléchargement de jeux, le dématérialisé. On était déjà là en 86. Ouais, c'est ça, ouais. Et pour toutes ces raisons, finalement, ça n'a jamais été développé pour l'Occident. Mais quand la console est arrivée en Occident, le disque système était déjà là, pratiquement. Donc, ils ont eu le temps d'analyser la situation.
Julo, tu parlais de modification des jeux aussi grâce au disque système. C'était possible, ça, à l'époque ?
De modification ?
Ouais, de modifier le jeu sur cartouche que tu avais grâce au disque système, non ? En ajoutant des trucs et tout, c'était pas possible, ça ?
Non, c'était pas possible, je pense pas. Je connais pas d'exemple de...
Ah ouais, ok.
Connaissant Nintendo, ça m'étonnerait fort, ça.
Non, parce que c'est un peu ce qu'ils avaient voulu reproduire avec la N64 des années plus tard, ouais. Avec le DD64 qui est finalement jamais sorti, qui était en fait
disquette
zip.
C'était des rumeurs et des spéculations.
Hormis la sauvegarde qui était possible, qui était enfin possible. En plus, la pile de sauvegarde arrivera un an et demi plus tard, donc voilà, l'intérêt, encore un intérêt de moins pour ce système, mais c'est surtout que économiquement, c'était pas viable.
Donc il a vécu, quoi.
C'était pas viable pour les éditeurs tiers, du moins.
Eh bien, à cet instant du podcast, nous allons quitter l'archipel nippon pour arriver chez nous,
Sayonara.
Dans l'hexagone français, pour eh bien comprendre un petit peu mieux ce qui s'est passé, les coulisses du lancement de la NES, puisque chez nous, elle s'appelle la Nintendo Entertainment System.
Exact.
Puisque vous allez voir, c'est assez passionnant, et ça, c'est vraiment des choses qu'on apprend dans l'histoire de Nintendo Volume 3. Je l'avais jamais vu ailleurs, je l'avais jamais entendu, toutes ces coulisses, et ça commence avec des histoires au CES, avec Patrick Lavanant et la société ASD, qui est une toute petite société.
Mais et juste avant de parler de Monsieur Lavanant et ASD, je souhaitais revenir sur un truc qui me semblait important. Mm-hmm. On a toujours sur nos sites de rétro gaming, et même moi au cours de ma courte période de journaliste rétro, on s'est toujours, et c'est quand même assez étonnant, contenté de parler du Japon, de contenté de parler des États-Unis, et on se pose jamais la question, et chez nous, c'est quoi l'histoire du jeu vidéo? Alors évidemment, on a nos créateurs à nous sur lesquels on parle, mais l'histoire de Nintendo en France, pourquoi sur les sites de rétro gaming on parle jamais Nintendo Europe? On a toujours les chiffres américains, on a toujours les chiffres japonais,
oh
mais
oui.
Malheureusement, personne en fait a eu, je sais pas pourquoi, mais en tout cas personne s'était posé la question et s'est mis à faire des recherches. Donc en partant de ce postulat, l'histoire de Nintendo volume 1 et 2, j'avais pas le choix parce qu'il y avait rien en France encore à cette époque, donc je pouvais pas vraiment parler de Nintendo France. Mais à partir de la NES, je me suis dit, il faut vraiment faire quelque chose, faire avancer le schmilblick, mais chez nous, il n'y a pas de raison qu'on se contente toujours de parler des mêmes anecdotes des Américains. Donc je me suis mis à faire des recherches sur cette fameuse histoire de Nintendo en France. Et ça a été pour moi la partie la plus grisante, en fait, de tout ce bouquin, puisque là, ça a été de la découverte totale. Même si j'ai eu la chance de pouvoir découvrir un certain nombre de choses inédites pour le Japon, pour la France, tout était nouveau. Donc c'était grisant et j'en suis particulièrement fier. J'ai voyagé pas mal en France pour retrouver un certain nombre de personnes. Je me suis rendu au fin fond du Finistère pour rencontrer Monsieur Lavanant, entre autres. Donc voilà, c'est une période grisante, et l'histoire de Nintendo France, l'arrivée de la NES est relativement rocambolesque, on l'a dit.
Parce qu'il y a des histoires quand même, dans tout business, il faut une part, on va peut-être pas dire de magouille, mais de malice.
De bluff.
de bluff.
De
et là, à ce niveau-là, ils ont joué quand même un très joli bluff, Patrick Lavanant et son associé qui, à l'époque, travaillait pour la FNAC, si je ne dis pas de bêtises.
Ou c'est pas son associé, on va dire que c'était un ami, Claudius Erhardy, qui travaille toujours dans le domaine du jeu vidéo. Il fait des simulateurs, des sièges qui bougent, etc. D'accord. Pour les simulateurs. Enfin, et en fait, Monsieur Lavanant, c'est un businessman évidemment visionnaire, vraiment dans son genre, et il s'est rendu au CES en 1987, en janvier. Mm-hmm. Il avait entendu parler de la NES et de la Master System, et il était persuadé qu'il y avait un marché pour la France aussi pour ses consoles, qui n'était toujours pas disponible en 87, en début 87. Et donc, il est parti là-bas. Et en voyant la NES et la Master System, il a évidemment eu un coup de foudre. Il s'est dit, ça va cartonner. Ouais. Ça cartonne aux US, ça cartonne au Japon. Il n'y a pas de raison que ça ne cartonne pas chez nous. Donc, il s'est débrouillé pour obtenir une licence. Et il y a été au bluff.
Alors, quel style de bluff il a fait ? Parce que sa société donc, ça s'appelle ASD.
Oui.
Elle est relativement petite à
c'est
cette époque.
C'est une toute petite société. Voilà. ASD, c'est Audio Sound Distribution. Et il fait en fait surtout de l'hi-fi.
Donc c'est un petit peu comme si Gameblog là se disait bah, on va distribuer le Times Magazine en France, de donner une licence.
C'est
merci.
Un peu ça.
On est
c'est
super.
Donc il y va au bluff et coup de chance, il est avec son ami qui est directeur des achats de la FNAC et qui y va lui aussi parce que c'est quand même le salon de l'électronique grand public. Mm-hmm. Donc il va voir ce dont il aura droit dans ses rayons dans les mois et les années à venir. Et puis, Monsieur Lavanant, en parcourant les couloirs et en voyant la NES et la Master System, eh ben, il la veut cette console, mais il n'a pas de puissance. C'est-à-dire, c'est une toute petite société, il n'a aucun poids. Donc il s'est dit, il y a peut-être moyen quand même d'y aller. Donc le bluff qu'il va faire, c'est qu'il va demander à son ami Claudius, à l'hôtel, une fois rentré, il lui dit, écoute, j'ai besoin d'un bon de commande fictif, peu importe, mais tu vas me faire un bon de commande fictif de 2000 pièces.
Ce qui est énorme pour l'époque. Hein.
Ce qui est énorme. Et le lendemain, il se repointe chez Nintendo et Sega et dit, écoutez... Je serais intéressé par la distribution en France de votre produit et j'ai déjà un bon d'achat, là je peux vous acheter 1000 consoles. Alors forcément quand t'es tout petit, si tu dis je suis intéressé par votre console mais j'ai pas de poids, je vais essayer, je vais faire de mon mieux, là on ne porte pas forcément crédit, mais quand tu viens les voir on te dit j'ai déjà 1000 commandes, là les doigts dans le nez, je les ai tout de suite, est-ce qu'on peut parler ? Là forcément t'as des arguments, t'as déjà un gros client qui est la FNAC, alors que c'est du bluff. La FNAC elle s'est jamais engagée, elle a jamais voulu acheter 1000 consoles.
C'est Claudius à titre personnel
qui a fait
ce bon de commande totalement fictif. D'accord.
Et ça marche.
C'est vrai que c'est à la limite de la légalité, ça, quand même.
Mais bon, c'est rigolo. Et finalement, Run Jeudi, qui est
usage de faux.
Abus de biens sociaux, tout ça.
Mais bref. Bon, quoi qu'il en soit, bon, Run Jeudi, qui lui aussi était un personnage charismatique et hautement malin, qui était donc chargé, en fait, de trouver des distributeurs pour Nintendo World, et qui, lui, était chargé en plus particulièrement de l'Europe, bah, il saute sur l'occasion, bien que ASD, la boîte de Patrick Lavanant, était en concurrence avec une autre société qui était Bandai.
Donc infiniment plus grosse, Bandai étant déjà gigantesque à l'époque.
Exactement. Mais évidemment, Patrick Lavanant, à ce moment-là, ne le sait pas qu'il est en concurrence avec Bandai, parce que c'est pas des choses qu'on dit, vous avez un gros concurrent, c'est Bandai. Ce qui est intéressant pour Run Jeudi, c'est de faire monter les enchères, tout bien simplement. Sûr. Donc...
D'autant qu'il s'en est mis plein les poches, hein, Run Jeudi, à cette époque.
Oui, tu l'as lu dans le bouquin. Exactement. Il s'est fait plaisir et ça fait partie des raisons aussi, parce que la clause entre ASD et Nintendo America était plus intéressante qu'avec Bandai à cette époque. Et puis surtout, Patrick Lavanant, il avait une approche qui était beaucoup plus réaliste, du moins pour cette époque, que Bandai. Parce que la façon dont Patrick Lavanant a réussi à convaincre Nintendo de prendre sa candidature, c'est que Bandai, on le répète, ça reste un géant du jouet. Or, le jouet, on le sait tous, est à 90% vendu par l'intermédiaire de grandes surfaces. Et les grandes surfaces, les rayons des jouets, ils sont extrêmement extensibles, ça dépend de la saison. Quand vient Noël, les rayons explosent, mais quand la période de Noël disparaît, bah les jouets, ils partent où ? En solde. Et il avait peur d'une chose, il se disait, si on vend ça en jouets, la console, il y a de fortes chances pour que à la fin de la saison, bah, ça parte comme tout le reste. On reste en 86, hein, on ne connaît pas le marché du jeu vidéo, il n'existe pratiquement pas encore, enfin, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc c'est des questions qu'on se pose. Et Nintendo et Lavanant va expliquer, si vous mettez ça en France, en tout cas dans le rayon des jouets, vous allez retrouver votre console morte en une saison parce qu'elle va se retrouver en solde, tous les invendus vont partir en solde. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller dans les FNAC, c'est aller dans les Darty, c'est aller dans les boulangers,
et vous mettez ça au rayon micro-informatique avec des jeux en libre-service et vous êtes plus du tout tributaire de ces saisons de... Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Patrick Lavanant, qui lui aussi débute dans ce métier, tient exactement le même discours que Nintendo of America quand Nintendo of America a imposé sa NES. C'est-à-dire qu'il va vendre sa NES comme un produit high-tech, ouais, de la même façon que le magnétoscope. Donc il y a cette entente réciproque qui fait qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Et puis après, on va
et
pas
puis visiblement, avec... même le personnage est apprécié parce qu'il est plein d'énergie, on sent qu'il a la niaque, il veut réussir son truc. Ça fait aussi la petite différence par rapport à Bandai.
C'est l'archétype du businessman éclairé et qui ne lâche rien. Quoi. C'est un fou furieux du business et il a l'intention de dominer le monde et il est là pour. Mmh. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que ça fait partie des anecdotes rigolotes, c'est que quand il rentre avec sa NES sous le bras des États-Unis, il va voir tous ses amis qui sont à cette époque les fondateurs d'Infogrames, qui sont les fondateurs. Alors qui c'est qui c'est, zut, il y a Bruno Bonnel, etc. Et tout le monde lui dit, mais Patrick, t'es fou, ça marchera jamais. Ça marchera jamais. Et lui, il est persuadé du contraire.
Bruno Bonnel et les bons plans.
Et ça a cartonné. Ouais. Enfin, voilà.
Et alors, justement, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça a cartonné, certes, mais pour la NES, parce que pour ASD, ça s'est passé de manière un peu plus compliquée quand même. Et alors, pour ça, il y a des raisons. Donc, Bandai, finalement, qui donc, n'a pas réussi à obtenir le contrat initial, va finalement, dans un deuxième temps, le récupérer. Parce que, on l'avait dit tout à l'heure, la sortie officielle de la NES en France, c'est septembre 1987, et pourtant, elle n'est pas arrivée à cette date-là.
Alors, pour le coup, Patrick Lavanant a joué vraiment, mais alors vraiment de malchance, puisque les contrats ont été signés assez tôt, au milieu de l'année 87. Les consoles devaient arriver en septembre 87, et il y a eu un retard. Un retard qui a foutu, en fait, qui a réduit à néant toute sa campagne de promo, de pub, etc. Qui l'ont considérablement endommagé. Et puis, deuxième gros problème dont il a dû faire face, c'est qu'à cette période, le partenaire, en fait, qui finançait ce projet, puisqu'il avait besoin d'investisseurs pour financer les 40 000 consoles, parce qu'ils ont commandé 40 000 consoles pour la première livraison.
C'est Nintendo qui a imposé ce chiffre-là, qui était colossal.
C'est Ron Judy qui a imposé, qui a imposé le nombre du console. Il fallait donc des investisseurs pour acheter, c'est une filiale, donc ils achètent.
Et stocker,
etc. Or, avec cette date de sortie ralentie, déjà, ça met un coup au moral. Et surtout, les investisseurs vont faire face à une crise financière, ce qui fait qu'ils vont plus, au bout à peine 3 mois après le début du lancement, ils vont couper les vivres, en fait, du financement du projet Famicom.
Il y a aussi
NES, pardon.
Il y a quelque chose qui est compliqué, c'est que, si je dis pas de bêtises, Ron Judy imposait aussi dans les jeux beaucoup de vieux jeux qui étaient sortis finalement au Japon, aux États-Unis il y a des années, les jeux de golf, etc., qui étaient vraiment pas bons.
Ils étaient bons, mais ils étaient dépassés.
Et donc Patrick Lavanant disait, ben non, moi je veux les nouveaux titres. Ouais. Il disait, si tu les prends, ok, mais tu dois prendre aussi X de ces vieux titres, et en gros, gonfler la note pour des jeux qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas vendre.
Ouais, c'est du business. On a pas tout à fait terminé par rapport à donc, enfin, en gros, ASD, suite à ces deux couilles, si je puis me permettre, non seulement la livraison tardive et puis ensuite le financement qui s'est arrêté, il a été obligé de baisser les bras et d'aller frapper à la porte de Bandai. Donc c'est Bandai qui a finalement... pas ennemi,
concurrent.
En tout cas, voilà, et il a été obligé de céder, donc il était extrêmement dégoûté, vous vous en doutez, puisqu'il avait 30% des parts d'ASD à cette époque, donc 30% de Nintendo en France. Et en cédant, en étant obligé de mettre fin à ses activités chez ASD, c'est pour le franc symbolique, c'est Bandai qui rachète. Et Lavanant
reste un poste important.
Il s'en sort quand même pas trop mal parce qu'il devient directeur de la filiale Nintendo chez Bandai. Mmh. Mais il a plus 30% de Nintendo. Oui. Alors aujourd'hui, vous imaginez, s'il a eu 30%, c'est lui-même, il est dégoûté parce qu'il avait son salaire et d'accord. Ouais. Mais ça aurait été tout à fait autre chose. Mais bon, bref, Ron Judy, oui, pour reprendre ton exemple, il imposait un nombre de jeux. Mmh. Il imposait surtout un catalogue en 87, donc il a imposé les fameux pinball, les golf, les soccer, qui n'étaient pas dans l'absolu des mauvais jeux, mais qui en 87 sont quand même à la ramasse. Et ça fait déjà 4 ans qu'ils sont sortis au Japon, et même si au Japon ils ont eu un impact fort parce qu'ils étaient modernes, en 87 nous on a beaucoup de salles d'arcade chez nous, et on voit
mieux.
Et qui font largement mieux. Et en 87 il y a déjà des Megaman, le gouffre sur NES déjà est énorme. Donc ce qu'il veut, lui, Lavanant, c'est ne proposer que ce qu'il y a de bien. Il s'en tape d'avoir des golfs et des pinball qui sont graphiquement extrêmement pixelisés. Il veut du Megaman,
bien sûr.
Il veut du Metal Gear, il veut tous ces jeux qui cartonnent.
Le truc, c'est que notre ami américain, en fait, il touche de l'argent directement sur ses titres aussi. Oui. C'est pour ça que lui, il pousse
après,
ses jeux.
Après, ça reste, je sais pas si c'est de l'aspect du délire ou pas, mais en tout cas, moi, les témoignages que j'ai récupérés, ils concordaient tous dans ce sens, c'est qu'ils se sont rendus compte que Ron Judy, qui était employé chez Nintendo, il avait réussi à dealer, je
5%,
sais plus. Non, je crois que c'était $1 par jeu vendu. Voilà. Mais bon, c'était des jeux Nintendo, vous voyez, et il n'avait pas réussi à dealer la même chose chez les éditeurs tiers. Donc forcément, quand il vient avec son catalogue et qu'il a le dernier mot sur les commandes, il dit vous prenez mes jeux. Et puis une fois qu'il avait vendu son catalogue, évidemment il allait donner le catalogue des éditeurs tiers. Alors évidemment, s'il s'est empressé de donner les jeux Nintendo, c'est parce qu'il avait son petit dollar sur chaque jeu. Puis comme ça s'est vendu à des millions d'exemplaires sur toute l'Europe, enfin il s'est fait des... Deuxième fois que je vais dire le mot couille, mais voilà. Des couilles en or.
Très bien. Bon, en France, en tout cas, suite à ce petit imbroglio et ces déboires de ASD repris donc par Bandai, ça y est, quand même, la NES explose véritablement. C'est un engouement énorme. Et du coup, il y a eu vraiment un vent de folie de la NES en France.
Il y a eu un vent de folie, même si là encore, c'est extrêmement... il faut relativiser, hein, vraiment relativiser. Parce que je ne connais pas par cœur les chiffres des consoles actuelles, mais je crois qu'on est à 6 millions de PS3 en France.
Ah non,
3 millions, c'est ouais. Ça.
Vendu, effectivement.
Ouais, on est à 3 millions. La NES, je vous pose la question, d'après vous, elle s'est vendue à combien d'exemplaires ?
En France ?
Moi, je dirais 150 000 exemplaires.
Oh, t'es méchant là. Non, t'exagères.
230 000, allez.
Non. Non,
c'est 500 000.
Ouais, j'ai peut-être mal présenté le problème. Non, elle s'est vendue.
4 exemplaires.
Non.
Un vent de folie, je vous ai dit.
elle s'est vendue à 1 800 000 exemplaires.
C'est énorme. Ah oui, quand même.
Énorme, tu trouves ?
Bah pour le marché de l'époque.
Pour le marché de l'époque, voilà.
Parce que la PS3 aujourd'hui, avec le battage médiatique, etc., et à 3 millions, elle finira.
Mais le battage médiatique, il était déjà là pour la NES.
Oui, mais dans un marché tout petit.
Mais d'accord, mais
à l'époque, c'était surtout très spécialisé. C'était sûrement moins cher.
C'est pour ça que je disais tout à l'heure que
je m'attendais à beaucoup, moi,
on a du mal à relativiser l'importance, l'impact, parce que moi personnellement je pensais que c'était beaucoup plus.
Ah ouais,
j'ai vécu moi cette période NES de façon tellement intensive, c'est tellement nouveau que mais tous mes potes l'avaient, donc je me disais mais
tous tes potes étaient des joueurs spécialisés et
certes
voilà.
Exactement, ouais. C'était
c'est-à-dire
pas le même
Sony
marché.
Sony aujourd'hui parle à tout le monde
c'est pour ça que c'est intéressant, c'est qu'on parle, on a l'impression qu'on parle, enfin que la NES a beaucoup plus marqué que certaines consoles comme la Nintendo 64, alors qu'il s'est vendu beaucoup plus de N64 que de NES.
Mm-hmm.
Donc voilà, c'est vraiment parce que ce côté pionnier a fait que notre perception elle est un petit peu biaisée. Et moi personnellement, j'ai été surpris.
Qui joue aussi. Hein. Il y a même des films par exemple qui sont cultes.
Et la nostalgie.
Dont tout le monde est persuadé que en fait ils ont cartonné, alors que quand ils sont sortis, ils sont votés.
Exactement. Tout à fait.
1 800 000, ça c'est les chiffres que j'ai réussi à obtenir. J'en suis très content parce qu'on n'avait pas ces chiffres. On n'avait pas tous ces chiffres. Et c'est ce qui m'a aussi permis de. On a rapidement fait le lien avec Sega. Et
oui,
c'est là aussi.
On en parlait tout à l'heure.
Ouais, moi ça fait partie des choses qui m'ont quand même surprise.
Genre, si tu es un petit peu, à cette époque-là, la véritable guerre entre Nintendo et Sega.
Guerre. Et Sego.
Sega, c'est plus fort que toi, tout ça. Sega qui, dans l'inconscient collectif, fait jeu égal avec Nintendo.
Exactement. C'est
pas du tout.
Et aujourd'hui, enfin pas du tout. Aujourd'hui, on continue. Enfin, je veux dire, je jette la pierre à personne. Je l'ai pensé moi jusqu'à il y a encore quelques mois. Donc il y a pas de souci.
À les présenter comme des ennemis héréditaires, c'est ça.
Exactement. Et de se dire, ils ont joué à parts égales. Ok, aux États-Unis, Nintendo a tout écrasé. On a les chiffres, tout ce que vous voulez. Au Japon, il y a même pas photo. Sega, c'est de l'arcade et puis ça s'arrête là. Et on se dit, en France et en Europe. Ils jouent à armes égales. Il n'y a qu'à voir les pubs, il y a même plus de pubs pour Sega. L'agressivité de Sega est telle qu'on a même l'impression que Sega en France domine parfois.
Il y a plus gros buzz, hein, comme on dirait.
Et ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et aujourd'hui, on a toujours cette image des deux rivaux et on se rend compte qu'il s'est vendu deux fois plus
de NES
que de Master System. C'est énorme, deux fois plus. Donc la Master System ne dépasse même pas le million. Alors qu'on a l'impression que c'est.
Elle arrive plus tard aussi.
Non, elle arrive exactement au même moment.
En même temps ?
À un mois près, ils arrivent au même
D'accord.
moment. Donc,
en
à
France,
la
NES et la Master System sont partis en même temps.
Alors, officiellement, la Master System arrive à un mois d'écart par rapport à la NES, mais elle est déjà importée de façon plus ou moins... ambigu et obscur. J'ai vraiment pas de détails sur ce truc là, mais en tout cas elle est déjà présente par le biais d'un port un petit peu bizarre en France, un petit peu avant la NES. Donc, okay. Mais dans l'absolu, officiellement, les deux consoles arrivent à...
Donc on va dire qu'elles sont parties sur la même ligne de départ et que finalement il y en a un qui est arrivé deux fois plus vite que l'autre.
Et exactement.
Très bien. Et on parlait tout à l'heure quand même de l'engouement qu'il y a eu en France, l'instauration du club Nintendo, le fameux SOS Nintendo. Moi je me rappelle, j'appelais parfois pour Gargoyle Quest. c'est la seule fois que j'ai appelé un numéro comme ça, mais et le mec, j'ai halluciné, il m'a aidé vraiment.
J'ai eu quelqu'un, mais c'était pareil aussi chez Sega. Il y avait les maîtres Sega chez Sega, c'était pareil aussi.
C'était du fou furieux. Et moi, j'ai personnellement adoré toutes les anecdotes qu'ont pu me raconter le fondateur du club Nintendo, la responsable marketing qui elle aussi était en charge de mettre au point tous ces systèmes qui vont permettre de fidéliser tous ces joueurs. Donc le SOS Nintendo, le magazine Club Nintendo. Ça a été très très riche en anecdotes et je suis persuadé que tous les lecteurs français de ce bouquin vont adorer. Et je pense que c'est assez étonnant cette histoire et l'engouement qu'il y a eu à cette époque. Ne serait-ce que pour prendre une anecdote, est-ce que l'un parmi vous, je doute maintenant que Julo est plus là, mais est-ce qu'il y en a qui ont lu le Club Nintendo, le magazine?
Moi oui.
T'étais abonné? Moi j'étais abonné.
Je crois, c'est possible, oui.
J'étais abonné, je le recevais chez moi et devinez le tirage qu'il y avait de ce truc-là.
5 millions.
Casse mes effets.
200 000.
200 000.
C'est énorme quand même. 200
000. C'est énorme. Mais ça va être énorme s'ils en ont vendu 1,8 million.
Ouais. Ah, une petite idée. Vous avez tous là autour de cette table.
Pour donner un ordre d'idée, un joypad console plus et compagnie, quand ça marchait vraiment bien, c'était dans les 60 000. Et PlayStation
en
Magazine.
Mais en tirage, c'était plus évidemment.
Pas beaucoup plus.
Pas beaucoup plus, non.
Mais et PlayStation Magazine en vente, etc., quand ça cartonnait, c'était à 300 000. Et c'était un record hallucinant, historique.
Je pense qu'ils ont pu tirer à 500 000 exemplaires.
En fait, le Club Nintendo, le magazine Club Nintendo, a été tiré et expédié à 1 million d'exemplaires. Ouais. 1 million d'exemplaires, ce qui est totalement...
Donc il y avait 1 million d'abonnés qui le recevaient ?
1 million d'abonnés, ouais. Sur les 1 800 000, c'est quoi ?
C'est colossal.
C'était totalement gratuit. Même 1
million d'abonnés.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, le principe pour s'abonner à ce fameux magazine, ce qui n'était pas vraiment un magazine, c'était de la pub, c'était du public rédactionnel, dans tous les jeux NES qu'on avait de cette époque, il y avait une carte à renvoyer.
Ouais.
Il suffisait simplement de marquer son adresse et même les frais de port pour cette carte étaient pris en charge par Nintendo. Donc, il suffisait de renvoyer cette carte et puis on recevait la newsletter, mais par
courrier.
Et 1 million d'exemplaires. Et ça a coûté des fortunes à Nintendo parce que les envois, il n'y avait pas de commission paritaire parce que c'était de la pub. Donc, c'était pas des abonnements.
Expliquer vite rapidement que la commission paritaire est accordée à des magazines qui ne sont donc pas publicitaires. C'est-à-dire, PlayStation Magazine, par exemple, n'avait pas la commission paritaire parce qu'il incarnait une marque.
Parce que c'était une marque, voilà.
Même s'il n'était pas fait par Sony, mais par Hachette.
C'était comme la marque PlayStation.
Et quand on a la commission paritaire, les tarifs postaux sont bien inférieurs. Il y a d'autres avantages. Voilà.
Exactement. Donc,
avec cette méthode, ils ont quand même surtout fidélisé les clients entre guillemets Nintendo, les joueurs Nintendo. Donc c'est aussi une super bonne affaire pour eux. Quoi.
Et finalement, c'est ce qu'ils continuent à faire aujourd'hui.
Exactement.
Avec la DS, la Wii,
sur
la
le net,
maintenant,
etc.
On gratte des petits trucs.
Exactement.
Et on a des numéros pour rester toujours dans
avec des
l'esprit
points, etc.
Nintendo.
Tout à fait. Mais j'ai demandé moi à Madame Blandeleuse, qui était l'instigatrice de cette revue en Europe, hein, parce que c'est Nintendo Bandai. Qui a lancé ce concept en Europe, qui a été repris après partout. Je leur ai dit, mais pourquoi, contrairement aux États-Unis, ils avaient le fameux Nintendo Power qui était vendu dans les kiosques, pourquoi vous ne l'avez pas mis en vente tout simplement dans les kiosques? Ça vous coûtait, mais à chaque fois, c'était 3 francs l'envoi, plus la production. Quand ils sont passés de 800 000 à 1 million, vous imaginez, ça fait plusieurs dizaines de millions de francs à chaque numéro.
Oui, c'est gigantesque.
Donné, quoi.
Ouais.
Donc, c'est colossal. Je leur ai fait, mais pourquoi vous n'avez pas vendu ce magazine? Il fait, mais vous savez, on n'avait pas le choix. Il y avait Sega à côté de nous, il fallait faire mieux.
Ouais.
Il fallait faire mieux. Aux États-Unis, ils s'en fichaient, il n'y avait aucune concurrence. Donc, pour fidéliser les gens... Pas très compliqué, ils vendaient le magazine, ça se vendait dans les kiosques. Mais en France, on a dominé Sega sur le final, mais au début, quand il a fallu trouver des techniques, on pouvait pas se permettre de vendre quelque chose parce qu'on était sûr que derrière Sega allait proposer un truc gratos.
On est vraiment un pays à part, c'est quand même à chaque fois.
Ils
ont frappé très
France,
fort.
Ok, très bien. Pour conclure ce podcast, est-ce qu'il y aurait quelques anecdotes particulières que tu aurais envie de nous apporter? Il y aurait bien sûr tant d'autres choses à dire. Il y a plus de 230 pages hein, dans ce volume 3 de
l'histoire
de Nintendo.
Il y a 236 pages. 236 pages qui se concentrent énormément oui, sur l'historique de ces consoles, dont la France et le Japon. Je ne parle pas des États-Unis hein, parce que vous ne m'en voudrez pas, mais aux États-Unis, il existe déjà un bon bouquin qui s'appelle Game Over de David Sheff. Et donc, je vous conseille de le lire si vous vous intéressez à la NES aux États-Unis. Mais là, pris à froid, des anecdotes, j'en aurais plein.
Allez,
mais
alors une.
Ah, il faut
la dernière.
Je sais pas, il y a pas une question plutôt essayer de trouver une anecdote en relation parce que là, pris à froid, qu'est-ce que je pourrais bien
vous pourquoi
dire
pourquoi ils l'ont changé le design de la parce que tout à l'heure on l'a évoqué mais on n'a pas dit pourquoi c'était juste non, pour épouser si le côté VHS.
Si pour faire un magnétoscope.
Oui, c'est vraiment ça.
C'était pour éviter
high-tech et tout ça.
La Famicom, bon, moi je la trouve pas particulièrement jolie mais c'est vachement cheap quoi.
Elle est pas extraordinaire.
C'est quand même. C'est
et pourquoi
même
ils ont retiré le micro alors de la manette?
Bah, parce qu'il n'a pas servi, même au Japon, il n'y avait pas de reconnaissance vocale. Parce que oui, pour resituer, ça, c'est, bon, ça fait partie des anecdotes connues, mais en tout cas, sur la manette 2 de la Famicom, il n'y a pas de bouton Start et Select, parce qu'il y a un micro.
C'est vrai.
Et ce micro, en fait, c'était là à titre de gadget. Ils se sont dit, il y a peut-être des trucs rigolos à faire. Ça n'a jamais véritablement servi, à part une fois dans Zelda, d'ailleurs. Ça fait partie des anecdotes rigolotes, mais il faut savoir.
Comment ils ont fait alors, du coup, finalement, pour la version occidentale ce passage.
Alors, pour parler de la version japonaise d'abord, il y a un niveau, je ne sais plus quel est le donjon, où tu dois trouver la flûte. Et quand tu appuies sur la flûte, ça fait réduire tous les ennemis de taille. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage-là. Quand vous êtes dans un donjon, vous utilisez la flûte, il y a des ennemis qui n'aiment pas le bruit, ça fait partie des énigmes. Et il suffisait, en fait, pour les Japonais, s'ils n'avaient pas trouvé la flûte, ils prenaient la manette 2, ils allumaient le micro, ils criaient dedans, et puis ça faisait disparaître les ennemis. Ça faisait partie de ce qu'on appelait les urawaza, c'est les techniques secrètes. Il fallait les trouver, après elles étaient marquées dans les magazines. Mais bon, la Famicom, voilà, ça restait une bête technologique à l'époque, mais ça restait limité. Et jamais on n'a pu utiliser de façon originale ce fameux micro. Il n'y avait pas de reconnaissance vocale. Donc
ça fait gagner de l'argent de ne pas le produire.
Finalement, de sources que j'ai, ne pas mettre les boutons Select et Start, ça coûtait aussi cher que de mettre
le
micro, qui était très cheap. Quoi. Donc finalement, comme ça n'a pas servi...
Takeshi Kitano s'en est servi dans son jeu.
Exactement, Takeshi Kitano s'en est servi aussi pour une période pour une séquence de karaoké. Donc il y a deux trois petites utilisations un petit peu de tests mais qui n'ont jamais eu servi dans le cadre d'un jeu en entier. Voilà, ça n'a jamais servi.
Mais c'est intéressant de le savoir justement que déjà à l'époque il y avait autre chose que des boutons pour interagir avec les jeux et que si c'est aujourd'hui encore dans les DS, les 3DS, etc., c'est pas un hasard.
Mais toutes les tentatives qui ont été lancées à partir de la Famicom, ne serait-ce que le fameux disque système et le téléchargement dématérialisé par le biais de boutiques, ça c'en est une. Les fameux concours sur disque système, parce que ça c'est quelque chose d'assez incroyable et de passionnant, c'est que Nintendo, au départ, le concept du disque système, c'était de diffuser un modem dans chaque foyer et puis de permettre ce téléchargement directement depuis chez soi. Or, comme
ça a été refait après finalement avec le Satellaview, etc.
Ouais, exactement. Mais ça n'a pas été fait. Le fameux modem disque système n'a pas été commercialisé de manière grand public parce qu'il fallait le disque système plus encore un modem. C'était compliqué, c'était cher et le network. Faut bien se rendre à l'évidence. Hein, en 86, personne sait ce que c'est. C'est des notions tellement vagues que personne n'accrocherait. Donc, au lieu de diffuser son modem dans tous les foyers, ils décident de mettre en place ce fameux disque writer dans les boutiques. Mais
c'est marrant
Nintendo,
parce qu'en fait, il n'y avait que les gros geeks de l'informatique à l'époque qui s'intéressaient au réseau. Je veux dire, parce que la Lynx, par exemple, donc c'est une console Atari qui n'a rien à voir, avait une interface réseau aussi qui n'a jamais servi.
Mais dès la NES, en fait, Nintendo n'abandonne pas son système de network puisque avec les fameux disques writer, ils vont développer une autre borne qui vont être les disques fax. Et ces disques fax, en fait, qu'est-ce que c'est ?
Des disques très plats que tu peux envoyer aux gens.
Ce sont des bornes qui permettent, quand on insère certaines cartouches, certaines disquettes, les bleues notamment, d'envoyer ces scores qui sont sauvegardés sur la cartouche à Nintendo. Nintendo centralise tous les résultats et qu'est-ce qui devient possible? Des concours nationaux. Alors il y a eu 5 grands concours nationaux sur Famicom qui ont déchaîné les passions, vous imaginez, des jeux de course, des jeux de golf où il fallait faire le meilleur résultat possible, et une fois qu'on envoie, et on pouvait gagner des lots, des jeux collecteurs, etc. Et ils ont lancé ce concept du jeu network, et ça a vraiment bien marché. Il y a eu un engouement populaire pour ces tentatives, et la Famicom a été un véritable laboratoire pour tous ces trucs là
Ouais, encore une fois, c'est des leaderboards, c'est tout.
Ouais, exactement.
Finalement. Sauf qu'ils ne sont pas consultables par les gens directement. Mais ouais.
Et alors, est-ce que tu sais pourquoi ils n'ont pas gardé le nom de Family Computer en Occident? C'était trop gentil, c'était trop... La marque Nintendo n'apparaissait pas assez clairement.
Honnêtement, non, je sais pas pourquoi ils ont changé le nom Family Computer en Nintendo Entertainment System. Je pense que c'est tout simplement peut-être que Nintendo Entertainment System, après réflexion, correspondait mieux. Et puis
c'est vachement intéressant aussi ça, parce que finalement on l'a pas soulevé, mais il y a aucun moment dans ces noms de consoles, etc., on mentionne le mot jeu.
Oui.
On parle déjà de divertissement à l'époque.
Nintendo, en tout cas aux États-Unis, refuse de mettre le jeu vidéo game à l'intérieur de son nom. Parce que le jeu vidéo game, ils ne veulent pas vendre ça comme un jeu vidéo, ils vendent ça comme une machine de divertissement. Et puis, il y a aussi quelque chose d'assez logique, finalement, dans toute cette histoire. Family Computer, c'est de l'anglais. Or, si les Japonais, je fais un coup de pub pour mon autre bouquin, mais c'est du framponnais quand même. D'accord, à l'intérieur, c'est un ordinateur, mais de l'extérieur,
oui, y a pas de clavier,
un Américain pas de ou un anglophone va dire, mais c'est quoi? Ils disent c'est un ordinateur, il y a 3 pauvres boutons.
Oh, la souris.
Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il n'y a même pas de souris. Voilà. Donc, le mot computer, de toute façon, d'office, il est évincé, parce que c'est pas dans le collectif anglophone, ça ne correspond pas, tout simplement.
Bah écoutez, en tout cas ça a été particulièrement riche. On a appris quand même beaucoup de choses grâce à toi, Florent. Et il y a encore énormément d'anecdotes dans les 236 pages de l'histoire de Nintendo.
Sachez qu'il n'y a que 1,5% d'anecdotes dans le bouquin qui est dans ce podcast. 1,5.
Voilà. Donc il y a
98,5 dans le reste.
Exactement. Bon, en tout cas, merci beaucoup Florent.
C'est un plaisir
de ta venue une fois de plus, de nous avoir éclairé. On risque de se revoir, on va t'en parler dans quelques instants, on vous en parle au Game Blogger dans quelques temps aussi, mais il y a des choses qui pourraient être intéressantes effectivement. En tout cas, nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast qui sera le tout premier dans les nouveaux studios de Game Blog. Alors attendez,
les
pas,
studios,
c'est ça, j'adore ce mot, des endroits où ça
il
ne
était
tombe
temps.
Pas
il était temps
parce
de changer,
que là ça part
ça,
en vrille,
cool.
Ah, ça tient pas, ah bah ça veut tenir cette fois-ci.
Non,
voilà, mais il fallait finir en beauté. Voilà, adieu studio de Game Blog qui a abrité tant de podcasts.
On verra pas,
mais nous et vous, eh bien, nous donnons rendez-vous dès la semaine prochaine.
Oh non,
encore merci Florent, merci Traz, merci Raan,
merci à tous,
merci Julo, l'homme invisible. À très bientôt, merci Poufi, merci tout le monde, merci à vous, à bientôt.
À bientôt.
Ciao.
Salut.
Ciao.